Vous savez qu'il y a, avant que je n'aie cette épreuve, il y a eu dans mon cœur ce souci, oui, ce souci, d'aider les chrétiens à entrer dans le repos. Tout à l'heure, on a chanté un beau cantique, « Parfait repos, parfaite joie », vous vous rappelez ? Et combien pourtant ne peuvent pas le vivre, n'y arrivent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Alors ce matin, dans le cadre du repos, j'ai intitulé ma prédication « La confiance pour pardonner ». La confiance en Dieu pour pardonner. Alors on va lire un texte que l'on connaît bien, dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, vous connaissez l'enseignement sur ce qu'on appelle le Notre Père. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, il y a une parole, une prière que l'on doit faire, peut-être certainement tous les jours, enfin que l'on doit vivre, pas faire, mais vivre tous les jours, en ce qui concerne les offenses. Car nous sommes offensés, de la même manière que nous offensons les autres. Est-ce que vous avez déjà été offensé ? L'offense, ce n'est pas le péché, c'est les blessures, les petites blessures de la vie. Il y a les gros péchés, vous comprenez ? Il n'y a pas de gros de petits, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quand même des grosses blessures et il y a des petites blessures. Et Jésus parle des offenses. Matthieu chapitre 6, verset 12, dont il y a tout un enseignement, c'est progressif, pour que nos prières soient exaucées, bien sûr. Et il nous dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Le Seigneur termine sa prière au verset 13 et au verset 14, il fait un commentaire sur ce canevas de prière et le seul commentaire qu'il fait est un commentaire justement sur cette notion de pardon. C'est une parole qui nous fait beaucoup réfléchir et justement nous allons parler du pardon ce matin. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce sont deux paroles qui, je ne sais pas, font énormément réfléchir. Oui ou non ? Donc, vous allez le comprendre tout à l'heure. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais obtenu le repos parce qu'ils ont mal commencé leur vie spirituelle. C'est le problème de départ. C'est comme une maison qui est bâtie sur le sable. Alors on peut la bâtir, on peut vouloir la bâtir et la peindre qu'elle soit belle, mais ce n'est pas la peinture qui fait la solidité d'une maison. C'est pareil, il y a des chrétiens qui extérieurement affichent un truc qui plaît, mais ils sont mal partis. Jésus l'explique très bien, tiens, on est dans Matthieu, on va lire dans Luc. Dans Luc, au chapitre 8, Jésus explique cela. J'en ai souvent parlé au début de mon ministère ici à Toulouse, parce que ça me peinait de voir tant de chrétiens qui se sont repentis et qui ne se sont pas convertis. Donc on ne va pas revenir là-dessus, mais Jésus explique dans Luc, au chapitre 8, dans cette parabole du semeur et des terrains, ceux qui commencent bien, ils commencent bien, parce que regardez, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie. Oh, c'est extraordinaire, j'ai de la joie de recevoir la parole de Dieu. Vous allez voir, ça ne suffit pas. La reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Moi, c'est une parole, je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais quand je lis ça, moi, ça me brise le cœur. C'est Jésus qui parle, ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez, il y a cette peine, ils n'entrent pas dans le repos parce qu'ils n'ont pas compris les choses. Ils ont de la joie parce que Dieu est un Dieu qui donne de la joie. La joie le salut, est-ce que ça donne beaucoup de joie ? Bien sûr, mais il n'y a pas que le salut. Il y a aussi la vie pratique de tout le jour. Et là, il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent la bénédiction, ils cherchent la faveur, ils cherchent leurs intérêts. Et ce qui fait que les gens sont profondément misérables parce qu'ils sont frustrés, ils aiment Dieu sans le chercher. En vérité, ils cherchent la bénédiction et le résultat, il est qu'ils passent à côté. On l'a lu, ils croient pour un temps. Et comme ils n'obtiennent pas ce repos que Jésus présente, on l'a chanté quand même, parfait repos. Vous l'avez chanté tout à l'heure avec moi. Quand je chantais ça, je me disais, mais combien chantent ce cantique et sont à côté de ce parfait repos ? Car il existe ce repos. Vous le croyez qu'il existe ? Il existe. Alors comme ils n'obtiennent pas le repos, eh bien ils s'épuisent. Voilà. Ils s'épuisent, vous rappelez ? Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Alors, vous le savez, et ce que je vais vous dire ce matin en vérité, vous allez bien le comprendre. Plus une personne est épuisée, plus elle a du mal à vivre sa communion avec Dieu. Vous avez déjà été épuisé, je ne parle pas de la fatigue physique, je parle de la fatigue spirituelle. Quand vous êtes épuisé spirituellement, même si vous aimez le Seigneur, vous avouerez que ce n'est pas facile d'entretenir une véritable communion avec Dieu. Et plus nous sommes épuisés, plus nous avons du mal à pardonner. C'est vrai ou c'est pas vrai? Soyons honnêtes. Hein? Alors à la place, et si on ne pardonne pas, qu'est-ce qui s'installe à la place? Vous pouvez m'aider à faire la prédication après tout. Vous pouvez m'aider. L'amertume, le ressentiment, la rancœur, il peut y avoir de la haine. Voilà ce qui se passe lorsqu'une personne est épuisée. Des fois on se dit, mais pourquoi des chrétiens ont abandonné? Eh bien, ils se sont fait piéger par ce que Jésus est en train de dire. Ils croient pour un temps, parce qu'ils n'ont pas commencé comme il faut. Quand on est chrétien, on a le souci de construire une maison comme il faut. Vous avez observé les maçons qui construisent tous les blocs, toutes les pierres, ils sont là avec leur fil à plomb, tac, tac, tac. Chaque bloc, même le premier bloc qui commence, il commence avec le fil à plomb. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais quelle perte de temps. Quand j'ai vu un maçon, là, vous savez, avec son fil à plomb, tac, tac, tac. Vous avez déjà vu un maçon? Dès le premier bloc, le fil à plomb. Je dis, mais ça ne tient pas debout. Eh bien, je peux vous dire qu'il vaut mieux bien partir. Parce qu'on ne voit pas le dixième de millimètre qui fait que la brique, elle est un peu de travers. Eh bien, c'est exactement pareil avec... D'ailleurs, la Bible parle du fil à plomb dans la main de Zorobabel pour expliquer que la parole de Dieu, ça doit être d'équerre dès le départ. Alors, celui qui est fatigué, bon, il y a la fatigue physique. La fatigue physique, on l'a à la fin de la journée, on l'a avant les vacances. Bon, la fatigue physique, c'est pas méchant. Mais il y a la fatigue spirituelle. Quoique la fatigue physique, plus on vieillit, plus on trouve que c'est... Bon, ouais, c'est moins marrant. Mais celui qui est fatigué, on peut être fatigué. Pourquoi on peut être fatigué? Parce qu'on a fait une tranchée toute la journée. Bon, mais on peut être fatigué parce qu'on a été déçu par des frères, par des sœurs. Être déçu, est-ce qu'on peut être déçu par des frères et par des sœurs? Est-ce qu'on peut être déçu par des incroyants? Bon, est-ce que vous acceptez d'être déçu par des incroyants? Est-ce que vous acceptez d'être plus facilement déçu par des incroyants que par des chrétiens? Mais c'est quand même une vérité. J'ai remarqué que les chrétiens, nous acceptons plus facilement d'être blessés par les incroyants que par les chrétiens. David l'exprime très bien. On va le lire ensemble. Dans le psaume 55, David exprime ce que je suis en train de vous dire. Vous savez ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Ce n'est que le résultat de la parole de Dieu. Dans le psaume 55, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre, il faut lire, mais il faut méditer la parole. Dans le psaume 55, David exprime cette double blessure. Parce que vous savez, il y a des blessures qui sont multiples. Vous le savez, il y a des gens qui se cassent une jambe, puis dans la jambe, ils peuvent se la casser à plusieurs endroits. Vous savez que c'est une fracture multiple. Et bien c'est pareil spirituellement, il y a des fractures multiples. Des blessures multiples. Psaume 55, verset 13. Regardez ce que David dit. « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. » Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu, etc., etc. Et David exprime une souffrance, une grande souffrance, une double souffrance d'avoir été blessé par un de ses amis. Comme je vous l'ai dit, c'est de bonne guerre que les gens qui ne sont pas chrétiens nous contrarient, parce que ça fait partie du combat entre le bien et le mal, etc., etc. Mais nous avons énormément de mal avec les blessures infligées par les amis. Et pourtant, ça peut nous arriver. On peut être blessé, mais on peut blesser aussi, parfois même sans s'en rendre compte. Puis il y a des gens qui sont susceptibles, il y a des gens qu'on a blessés alors qu'ils ont soupçonné le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là, c'est un autre sujet. Mais en fait, c'est pour vous dire que le Seigneur est clair. Il nous enseigne à vivre dans une vie de pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Parce que la vie est faite de blessures. Le chrétien qui rêve, bon c'est bien de rêver, mais qui au niveau de la relation... pense qu'il ne peut jamais, c'est pas possible quand on est chrétien, il ne peut pas y avoir de blessure. Ou même le gars qui se marierait et qui dirait non, on vivra une idylle parfaite, il n'y aura jamais de nuages dans mon foyer parce que ma femme sera parfaite, puisque je suis parfait. Donc, bon, voyez, on peut rêver. Ça, je pense que la personne va vite redescendre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais spirituellement, soyons, qu'est-ce que vous diriez d'un homme qui parlerait comme ça de son futur mariage? Vous diriez, quand tu vas atterrir, quand tu vas atterrir, tu vas voir qu'il y a du vent parfois. Bon, vous êtes d'accord, tout le monde le dirait. Tout. Mais spirituellement, soyons honnêtes, la vie est faite de blessures, de déceptions, de douleurs. Et même si nous voulons vivre dans la paix et dans le repos, il faut absolument que nous comprenions cette notion de pardon. Parce que je peux vous dire que beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas. Ça vous étonne, mais moi je suis profondément interloqué. Je ne parle pas souvent du pardon. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est pas la peine d'en parler. Parce que ça devrait être une évidence. On doit vivre dans le pardon. Et pourtant, ça fait un mois que je suis travaillé par ce sujet. Parce que, bon, c'est vrai que c'était peut-être une de mes seules qualités, mais même avant ma conversion, je pardonnais. Il y a des gens qui, même inconvertis, est-ce que vous savez, c'est pas un exploit, c'est comme ça, on nous l'a enseigné. Voilà. Pour moi, je vous assure, on ne devrait même pas enseigner sur le pardon. Et pourtant, je vous assure que c'est quelque chose de sérieux. Nous devons apprendre à pardonner. De la même manière que nous apprenons à être contents. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas appris à être content ? Oui, il a appris à vivre dans quoi il a appris à vivre ? Dans la disette, il a appris à vivre dans l'abondance. Il a appris, on apprend. Et on doit apprendre à pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ma femme hier écoutait un cantique chrétien, et c'est pardonner, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Pardonner, la personne, elle disait dans son cantique, pardonner les absences. Eh bien oui, on peut apprendre à pardonner des gens qui auraient dû être là, et qui n'étaient pas là, quand on avait besoin d'eux. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, et qu'il a dit à ses amis, mon âme est triste jusqu'à la mort, veillez et priez avec moi, mais ils n'étaient pas là. Au moment où Jésus avait vraiment certainement le plus besoin de 3 amis pour le soutenir dans la prière, ils n'étaient pas là. Il faut apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés, apprendre à ceux qui auraient dû être là, peut-être, quand on en avait besoin. Apprendre ceux qui nous ont offensés, oui, pardonne, comme nous avons été offensés, voilà. Apprendre ceux qui ont colporté les mauvaises nouvelles de notre fatigue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous appreniez des trucs sur vous ? Des trucs faux, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Ça arrive, ça. Moi, des fois, je dis, je l'apprends. Quand j'ai eu l'AVC, si vous saviez tout ce que j'ai eu, j'ai appris plein de trucs que j'avais eu, enfin, à moins que les docteurs aient oublié de me le dire. Mais il faut apprendre à pardonner les gens qui ont colporté des trucs sur nous. Il faut apprendre. Apprendre à pardonner les responsables spirituels. Est-ce qu'un responsable spirituel, des pasteurs, des anciens, est-ce que nous pouvons commettre des erreurs ? Ou est-ce que vous faites partie des gens qui disent, ah non, c'est des responsables, ils n'ont pas droit à l'erreur, je n'accepterai pas qu'un pasteur me déçoive ? Où vous avez vu ça ? Apprendre à pardonner les responsables. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas. Ils acceptent d'être blessés par un frère, par une sœur. Ils n'acceptent pas d'être blessés par un pasteur. Je suis désolé, nous ne sommes pas parfaits. Et le problème, ce n'est pas de justifier un mauvais comportement. Le problème, c'est que nous comprenions tous que nous devons apprendre à tout pardonner. Pardonner les pharisiens. Les pharisiens, il y en a des pharisiens. Dans les églises, nous avons des pharisiens. Parce que vous savez, si on ne pardonne pas un pharisien, eh bien on est en train de le devenir, pharisien soi-même. Vous pouvez le calculer comme vous voulez, mais si vous ne pardonnez pas, vous êtes en train de devenir comme ces gens-là, peut-être qui vous ont offensé. Jésus n'a jamais affronté les pharisiens. Il s'est opposé aux pharisiens. Il a souvent eu à s'opposer aux pharisiens à cause de leur légalisme et de leur religiosité, mais il a pleuré sur eux. Quand il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré sur ces pharisiens qui étaient en foule dans cette ville de Jérusalem. Enfin, vous vous rappelez, il a pleuré, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, il parlait de qui ? Il parlait des pharisiens. Il ne parlait pas des gens du commun du peuple qui, eux, n'étaient pas accaparés par ces choses. Il était en train de pleurer pour les pharisiens. Vous voyez ? D'un côté, il s'opposait, mais de l'autre, il a pleuré. Il ne s'est pas aigri contre les pharisiens, puisqu'il aurait pu dire, oui, de toute façon, ils ont lapidé les prophètes, ils n'y entendent rien. Non, il a pleuré sur les pharisiens. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas nous aigrir contre les gens religieux, contre les responsables religieux. On peut tomber, c'est pour ça qu'il faut qu'on cède et qu'on puisse parler, afin qu'on arrive à dire, moi, combien de fois ma femme m'a dit, mais Gérard, fais attention, tu deviens légaliste. Eh bien alors, tant mieux qu'elle me l'ait dit. Oui ou non ? Est-ce que c'était bien qu'elles me le disent ? Mais oui ! Mais mes frères et sœurs, C'est ça l'amour. Il faut qu'on ait cette liberté de se dire les choses. Oui, Jésus n'a pas envoyé bouler les pharisiens, il a pleuré sur eux. Combien de fois il a dit, combien de fois ai-je pleuré, hein? Il y a des offenses. Il y a des offenses. La vie est faite d'offenses. La vie est faite de blessures. La vie est faite de grosses épreuves. Voilà. Alors Jésus dit, qu'est-ce que Jésus a dit quand il a été outragé et offensé comme on ne peut pas l'être davantage? Père, pardonne-le. Il avait déjà pardonné. S'il demande à Dieu que Dieu les pardonne, c'est que lui, il les avait déjà pardonnés. Je vous signale que toutes les prières de Jésus ont été exaucées. Je vous signale que Jésus, sur la croix, a demandé, parce qu'on le sait, c'est évident, Jésus a demandé à Dieu que ce qui était en train de le faire souffrir, comme il était en train de souffrir, soit pardonné. S'il avait demandé que le jugement soit avancé, laissez-moi vous dire que le jugement aurait été avancé. Si Jésus avait dit, « Père, c'en est trop, envoie tes anges pour les souffler », est-ce que cette prière était exaucée? Oui, elle aurait été exaucée, croyez-moi. Donc, il nous a montré cet exemple, Père, pardonne-leur. Là, on ne lui a pas marché sur le pied, on ne lui a pas tourné le regard, on n'a pas soupçonné le mal, on était en train de le crucifier. Et l'exemple qu'il donne, c'est un exemple de pardon. Père, pardonne-leur. Alors, le premier point de ma prédication, il est là, en vérité. L'apôtre Pierre nous montre ce que Jésus a fait devant les souffrances. Alors, cette parole, Père, pardonne-leur, on pourrait y prêcher des semaines dessus, cela ne nous épuiserait pas, bien au contraire. Mais j'aimerais que vous lisiez avec moi. En tous les cas, ceux qui ont du mal à pardonner, ceux qui pardonnaient facilement, tant mieux. Écoutez bien, ça va vous faire du bien. Mais ceux qui ne pardonnaient pas, je vous plains vraiment, je vous plains. Je vous plains parce que vous ne pouvez pas vivre dans le repos, c'est impossible. Vous savez que ce repos, moi, c'est un sujet qui me préoccupe, mais regardez ce que Pierre enseigne. C'est une clé. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. On va lire du verset 21 au verset 23. Il y a dans le verset 21 quatre mots qu'on va souligner. On va d'abord lire les deux versets, 21, 22, 23. Il parle de la souffrance. Il parle de la souffrance. Et c'est à cela aussi que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas d'injure, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge, justement, et les quatre mots qu'il faudrait peut-être souligner d'abord, c'est vous laissant un exemple. Si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est qu'on peut pardonner. Le pardon est à la portée de tous. Quand quelqu'un dit « Oh, je ne peux pas pardonner », c'est une façon de parler qui est très cavalière. En vérité, c'est que la personne ne veut pas pardonner. Car vous connaissez Dieu. Si vous le connaissez, vous savez très bien que ce qu'il nous demande de faire, on peut le faire. Cette semaine, j'ai lu des ouvrages sur les pasteurs du désert. On n'y pense pas, mais vous savez, il y a 200, 300 ans, dans les Cévennes, ici, dans le Lauragais, ici, à Toulouse, il y a énormément de chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi. Et les témoignages de ces pasteurs, moi, ça m'a fait pleurer. Le jour où ils devaient être exécutés, assassinés, parce que ce n'est pas des exécutions, c'était des assassinats. Ils bénissaient le Seigneur et ils disaient à leur bourreau, « Mais c'est le plus beau jour de ma vie, on va rencontrer notre maître. » Et quand vous lisez les témoignages, c'est peut-être nos ancêtres, pour certains, il y a des chances. Quand vous voyez l'histoire de ce qui s'est passé en particulier dans les Cévennes, vous vous rendez compte ce qu'est la communion avec Dieu. Mais je reviens à ma prédication, quand Dieu nous demande de pardonner, c'est que nous pouvons pardonner. Et si vous ne pardonnez pas, laissez-moi vous dire que votre communion avec Dieu, quel que soit tout ce que vous pouvez dire, est un porte-à-faux. C'est obligé. Apprendre à pardonner. C'est accessible à tout le monde. Si Jésus dit, voilà, je vous ai donné un exemple, voilà comment Jésus a fait. Quand Jésus était outragé, quand Jésus était maltraité, quand il était couvert d'injures, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'en remettait à celui qui juge, justement. Un jour, Jésus sera le juge, vous le savez. Est-ce que c'est écrit qu'un jour, il sera le juste juge? Oui, c'est écrit. Quand Jésus sera assis sur le trône blanc, on va changer de registre. Mais en attendant, Jésus lui-même, le Dieu Tout-Puissant, est-ce que c'est écrit? On l'appellera Dieu Tout-Puissant. Il est quand même dépouillé de sa gloire, j'en conviens, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu Tout-Puissant, qui est venu comme sauveur, lorsqu'il était injurié, maltraité, bafoué, s'en remettait à celui qui juge avec justice. Alors si vous regardez dans un dictionnaire, vous allez voir que remettre, c'est vraiment demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Si je vous remets une lettre, je dis tiens, monsieur de Dieu, remettez cette lettre à la poste, je ne m'en occupe plus. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Lorsque Jésus s'en remettait à Dieu, il faisait en sorte que ce ne soit pas lui qui s'occuperait de cette affaire. Jésus remettait toutes ces affaires difficiles, ces injures, je ne sais pas, si on vous a déjà injurié, il y a des gens qui n'ont pas pardonné. Ah, ça non! Lequel débroutille, d'accord, mais ça, je le pardonnerai jamais. Bon, mais ça vous montre ce que la personne a compris déjà de la croix. On va y revenir. Mais Jésus a fait que toutes ses douleurs, toutes ses souffrances, il ne s'en est pas occupé. Et il a expliqué, par là, qu'il reconnaissait que Dieu était véritablement le juge. Est-ce que vous croyez que Dieu est le seul juge? Le seul vrai juge? Vous comprenez pourquoi le pardon est lié à une véritable confiance en Dieu. Après tout ce que je viens de vous dire, c'est facile de comprendre. Dimanche dernier, j'étais à Marignane et je pensais à ce sujet. Et il y a une sœur qui est venue me trouver par rapport à un sujet. Et j'ai abordé de suite cette affaire. Elle m'a dit, je ne comprends pas, j'y comprends rien. Parce que tout ce que je viens de vous dire ne peut que vous aider à comprendre que le pardon est lié à la confiance à Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens ne pardonnent pas, parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Mais d'ailleurs, franchement, qui peut émettre un véritable jugement? Qui peut émettre un véritable jugement? C'est vrai que dans l'Église, normalement, les pasteurs, les anciens, doivent juger le péché dans l'Église. Est-ce que ça, il faut le faire? Oui, c'est écrit. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ça nous pèse, ça nous est parfois pénible, mais on le fait. On le fait parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Alors il y a des choses qui sont de notre compétence, à savoir la discipline dans l'Église. Mais après, il y a beaucoup de choses que nous sommes incapables de juger. Si Jésus a donné l'exemple, lui qui pouvait, enfin je pense que lui, est-ce qu'il pouvait juger? Mais oui, rappelez ce gars un jour dans la foule, il avait compris. Dis à mon frère de partager mon héritage. Qui m'a établi pour être votre juge? Jésus n'est pas venu comme juge, Jésus est venu comme le sauveur. Un jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera le divin juge, heureux ceux qui seront passés à la croix. Mais qui possède vraiment tout l'amour, toute la grâce, toute la miséricorde nécessaire pour établir la justice, hein? Donc, le pardon, le véritable pardon envers un autre, quel qu'il soit, que ce soit un ami qui vous a blessé, que ce soit un ennemi, même si vous acceptez plus facilement l'offense, le pardon est un acte de foi en Dieu, un acte de confiance. En agissant ainsi, vous reconnaissez que seul Dieu a le pouvoir de juger. Alléluia. Et vous êtes heureux, vous le savez. Si quelle que soit l'offense, ou quel que soit le péché, ou quelle que soit la blessure, vous avez dit, moi ça, je le remets entre les mains de Dieu. Jésus m'a donné l'exemple et je veux m'en tenir là. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La tentation, parce que la tentation, ça a été présenté. Mais rappelez-vous ce que le diable avait dit à Adam ou à Ève. Vous serez comme des dieux. Mais quand on veut nous juger, on est tombé dans ce piège. Où l'on croit que l'on peut juger toutes les situations. Vous serez comme des dieux. Et l'homme est toujours dans cet aveuglement. D'ailleurs, si nous étions toujours dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, laissez-moi vous dire qu'on serait tous aveugles. Ça vous fait rire? Mais moi je vous dis, mais je savais qu'il y en a qui riraient. Mais est-ce que c'est pas vrai? Si on était dans la loi du talion, tu m'as fait une crasse, je te la rends. On serait tous borgnes, tous. Il n'y aurait que des aveugles sur la terre. On serait tous des aveugles. Parce qu'on n'a pas la capacité de juger. Donc Jésus nous a donné un exemple. Vous voulez vraiment vivre dans le repos? Plusieurs m'ont dit, oh, monsieur Gou, vos prédications sur le repos, c'est du miel. D'accord. Est-ce que vous voulez vraiment vivre dans le repos? Est-ce que vous voulez chanter ce beau cantique qu'on a chanté tout à l'heure? Parfait repos. Donc la foi, la véritable confiance, parce que la foi, je l'ai dit, c'est la véritable confiance. Elle remet tout et la justice entre les mains de Dieu. En faisant ainsi, vous montrez que vous lui faites confiance. Quand vous dites, je ne m'en occupe pas, Seigneur, tu t'en occupes, vous prouvez à Dieu que vous lui faites confiance. Et vous êtes libre. Dieu vous a donné un exemple. Jésus aurait pu, croyez pas que le lendemain de la résurrection, il aurait pas plutôt que d'aller voir les deux disciples là qui doutaient. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez été voir les deux disciples ou vous auriez été voir Hérode, Pilate, Caïphe, Anne? Qui c'est que vous auriez été voir? Vous auriez pas dit, tiens, ça serait peut-être bien que j'aille au palais d'Hérode m'expliquer. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Le lendemain de la résurrection. Bon, c'est un autre sujet. Alors on va. Mais quand même, quand on a remis tout entre les mains de Dieu, on ne s'en occupe plus. Je choisis, c'est un choix, la vie c'est faite de choix. Je choisis de ne pas m'en occuper. Je vais suivre l'exemple de Jésus. Quand Jésus parle du pardon à ses disciples, il en parle souvent du pardon. Pierre s'approche, vous connaissez cette affaire? Pierre s'approche et lui pose une question. On va la lire, Matthieu chapitre 18. Pierre avait fait certainement beaucoup de progrès depuis qu'il marchait avec le Seigneur. Matthieu 18, Jésus enseigne sur le pardon. Dans un contexte de discipline dans l'Église, parce que vous savez, là je m'adresse aux responsables, juste 30 secondes. Les responsables, regardez bien le contexte. Bon, c'est tout, on n'a pas le temps d'y revenir. Donc, Jésus parle de la prière qui sera exaucée dans un contexte de discipline, etc. Et Pierre s'approche de Jésus, Matthieu 18, verset 21, ce qu'on doit faire. Matthieu 18, 21, Pierre s'approche de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Pierre pensait certainement avoir atteint un très haut niveau spirituel et pensait que pardonner 7 fois à un frère dans la même journée, c'était quand même presque un exploit. Oui ou non ? Une personne qui me casse les pieds pendant 7 fois, qui m'offense, qui me blesse. Bon, Pierre, lui, devait être sûr. Je ne sais pas comment il était avant sa conversion. Est-ce que Pierre pardonnait avant sa conversion? Personne ne sait, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens, avant leur conversion, ils pardonnaient. Il y a des gens, ils ont dû apprendre à pardonner parce qu'ils ont vécu dans la haine, etc. Bon, est-ce que vous pardonniez, vous, avant votre conversion? C'était difficile, ouais, vous voyez, ça peut être difficile. Bon, Pierre ne comprenait pas, il était dans la loi. Quand on est dans la loi, on ne comprend pas ces paroles de l'Écriture. On fait un devoir. Voilà, bon, il faut pardonner. Bon, cette fois, bon, la loi dit sept fois. C'est comme si on disait un homme, voilà, bon, un homme qui dirait, bon, combien de fois je dois dire à ma femme que je l'aime par jour ou par semaine? Je le ferai. 8 fois par jour, ben, je le ferai. Je mettrai mon réveil et 8 fois par jour, j'enverrai un texto, je t'aime. Voilà, je le ferai, moi je veux... Bon, est-ce que c'est ça l'amour? Non mais vous comprenez? Et imaginez cette dame qui dirait à sa collègue, mon mari, 8 fois par jour, il m'envoie un texto pour me dire qu'il m'aime. Mais est-ce que c'est la preuve que cet homme aime sa femme? Vous voyez? Et combien nous pouvons réduire l'amour de Dieu à des lois. C'est des lois, ça. C'est le légalisme. Alors, c'est très subtil. Je peux vous assurer que c'est subtil. Mais en fait, il faut avancer. Il faut avancer. Bien sûr que quelqu'un qui n'est pas converti, il ne va pas comprendre la parole de Jésus. Quand Jésus dit, « Ah, tu veux un chiffre ?» Ben bon, je le dis en français courant. « Tu veux un chiffre ? Je vais t'en donner un, Pierre. » Ce n'est pas 7 fois. C'est 490 fois. Alors quelqu'un qui dit, mais 490 fois, il faut que je compte, là il faut compter cette fois-ci. Est-ce qu'il faut que je prenne une calculette et que je compte avec la 490? Bon, je vous avoue que si vous pardonnez quelqu'un 490 fois dans la journée, vous avez quand même, là, vous avez. Mais est-ce que c'est possible que quelqu'un vous offense 490 fois? Moi, je ne pense pas que ce soit possible. Enfin, là, on peut ouvrir un sérieux débat par rapport aux blessures que quelqu'un d'autre peut nous infliger. Mais Jésus l'a dit. C'est important, c'est pas une blague. Bien sûr qu'on peut, avec cette histoire, créer un peu d'humour. C'est pas non plus interdit. Mais vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que derrière cette histoire, il y a un enseignement extrêmement profond. Car il y a derrière une parabole. Il y a d'ailleurs une parabole, on va la lire. On a le temps, on va la lire. C'est très 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 sérieux, mes frères et sœurs. Parce que si vous voulez vivre dans le repos sans pardonner, vous pouvez déjà abandonner le Seigneur. Ça sera impossible. C'est pourquoi, verset 23, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, 25 millions d'euros. Comme il n'avait pas de quoi payer, on se comprend, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Est-ce que cette promesse, il aurait pu la réaliser? Réfléchissez bien. 25 millions d'euros, quand vous savez que le salaire d'une journée, c'était un denier, dont 70 francs, voyez combien ça fait, 10 euros. Et bien sûr qu'il ne pouvait pas. Tout ça pour vous dire qu'on peut faire des promesses à Dieu. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de toutes nos promesses. Ému de compassion, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui, dit « Seigneur, aie patience, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ça fait 3 mois de salaire, 3 mois et demi. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Il refait à peu près la même prière. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui s'était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis à l'entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, regardez bien, c'est Jésus qui parle, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, Pierre, lui, pensait avoir la solution pour régler le problème du pardon avec des lois. Et Dieu est en train de nous ramener, à travers l'enseignement, sur l'amour divin. Cet amour qui fait que l'on va pouvoir vraiment pardonner. Cette dette a été remise, ces 25 millions d'euros, ça représente des sommes qu'on ne pourra jamais payer, parce que de toute façon, ce que Jésus a fait sur le bois de la croix ne pourra jamais être payé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le savez, vous en êtes tous conscients. Dieu nous pardonne, pourquoi? Parce que Dieu nous aime, et pas par rapport à des promesses. Seigneur, je ferai ci, je ferai ça. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de certaines de nos promesses qui ne servent peut-être pas à grand-chose. Mais n'oublions pas quand même, que si le maître pardonne cette dette de 25 millions d'euros, 10 000 talents, cette dette existait vraiment. Une dette, c'est une dette. Ça ne se volatilise pas, une dette. C'était vraiment une dette. Chacun, nous avons envers Dieu une très, 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 très grosse dette. Vous le savez. Et vous savez qui c'est qui a payé, parce qu'il fallait que quelqu'un paye. La dette du péché, bien sûr, j'espère qu'on n'est pas familiarisé avec ça, mais c'est une dette énorme. Quelqu'un a vraiment payé. Si Jésus a institué la Sainte Cène, c'est pour que nous nous souvenions d'une manière très claire que quelqu'un a payé à notre place. Cette histoire, ce n'est pas une fable. Vous savez, il y a des fables pour les gosses. Ce n'est pas une fable. C'est une histoire qui nous rend compte, qui nous explique que quelqu'un a vraiment payé. Le roi a payé lui-même. Notre Seigneur Jésus a payé et vous savez comment il a payé. Par la croix et par la résurrection. Il a pris notre dette, il a payé à notre place. Mais ce qui nous choque dans ce récit, et ce qui pourrait peut-être choquer aujourd'hui beaucoup, c'est que cet homme n'a eu aucune reconnaissance, il est parti sans remercier. C'est peut-être là que le problème commence avec le pardon. C'est qu'on n'est pas conscient de ce que Jésus a fait pour nous. Ça fait qu'on n'est pas reconnaissant. Moi, je ne sais pas vous, je le dis en tant que chrétien, mais je crois qu'on se réjouit tous les jours de dire « Seigneur, merci pour mon péché effacé ». Oui ou non? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Parce que déjà, on doit l'être envers les uns et les autres. Moi, je suis reconnaissant. Quand on arrive, que l'église soit chauffée, que tout. Vous n'êtes pas reconnaissant, frère, au conseil d'administration, qui font, parce qu'ils s'en occupent, c'est pas, là aussi, ça se fait pas tout seul. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Oui ou non? Envers les gens. Mais si on est reconnaissant envers les gens, à combien plus forte raison nous devrions être continuellement reconnaissants envers le Seigneur. Et je crois que le problème du pardon commence parce que nous sommes dans un monde ingrat, égoïste, les gens ne disent plus merci. Ça fait peur vraiment. Je vous disais l'autre jour quand j'étais dans une boulangerie, un gars, pas un jeune, un gars de mon âge, il n'a même pas regardé la jeune fille qui servait. Et qu'est-ce que vous voulez? Il a fait « Comment ça ?» Vous vous rendez compte? Non, moi, je me suis tué. J'ai failli lui expliquer. Comment ça? Il a montré la baguette. Ni merci, ni rien. Il a payé, il est parti. Mais voyez, enfin, moi, je trouve que c'est misérable. La politesse, quand même, ça ne coûte rien. Donnez-moi, s'il vous plaît, une baguette. Et ça vous montre qu'on est dans un monde, vous regardez les infos, vous n'avez pas vu qu'ils mettent des bonbons de gaz pour faire sauter les usines, l'usine ne leur appartient pas. Vous voyez cet état d'esprit et on montre ça à nos enfants. Je vous assure que nos enfants, on les éduque bien. Je peux vous dire que ces gens-là, ils sont fous. Et quand je dis ils sont fous, je le pense. C'est pas un proverbe. Ils sont fous parce qu'ils sont en train d'enseigner ça à l'autre génération. Enfin bon, là aussi on sort du sujet. Mais en fait, c'est pour vous dire que on a un problème avec la reconnaissance. Est-ce qu'on a compris vraiment ce que Jésus a payé? C'est une question que je nous pose. Est-ce qu'on a compris la dette que Jésus a payée? Ou est-ce que juste vous voyez un corps pantelant sur la croix, crucifié, lacéré? Bon, d'accord, on sait. Mais est-ce que vous savez? Vous avez entendu la prophétie? Vous savez que cette crucifixion ouvre le ciel en entier, votre éternité en entier. C'est un truc de malade ce qui nous attend. Est-ce que vous en êtes conscient? Ce que Dieu a accompli sur le bois de la croix, mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous savez, si vous persévérez, la maison que Dieu vous a préparée dans le ciel? Vous savez que vous avez une maison dans le ciel? Vous dites, bon, moi, je m'en fiche, moi, sachez que j'ai une cabane, une tente, trois places. Non. Moi, ces bêtises-là, ça. Écoutez, si Jésus fait des maisons, il doit savoir ce qu'il fait. Mes frères et sœurs, ne dites pas, moi, ça m'est égal. Non. Optez pour le meilleur, ce que Dieu a préparé pour vous. Comment vous comportez-vous envers les autres? Vous avez vu ce gars? On vient de lui pardonner une dette qu'il ne pourra jamais rembourser malgré les problèmes, les promesses qu'il fait. Il rencontre 5 minutes après dans la rue un gars qui lui doit 3 mois de salaire. Et le gars, quand il dit je te paierai, lui, ça tient debout parce qu'il peut rembourser les 3 mois de salaire. Oui, ça correspond, je sais pas moi, rembourser 3 000, 5 000 euros, 4 000, 6 000 euros, c'est un truc qu'on peut faire. Oui ou non? C'est réalisable. Et vous avez vu ce qu'il fait? Alors qu'il est en train d'utiliser la même parole. Il l'étrangle, il le jette en prison, alors qu'il vient d'être épargné d'une dette qu'il n'aurait pas pu rembourser. Mes frères et sœurs, si on ne pardonne pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi on ne pardonnerait pas? C'est une question qu'il faut poser. Pourquoi on ne pardonnerait pas les offenses que les chrétiens, les inconvertis, les gens avec qui on travaille, qu'est-ce qui nous autorise à dire non, je ne pardonne pas? Vous avez vu ce que ce maître a fait? Plein de compassion, oui, mais plein de sévérité, oui. Parce qu'il l'a quand même fait maître, emprisonne pas, en prison. Et les personnes qui ne pardonnent pas pensent qu'elles font bien. Je vais me venger. Et il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Je vais me venger. Et je serai soulagé. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand on se venge, on n'est jamais soulagé. C'est un mensonge du diable. Le fait d'avoir été pardonné par Jésus-Christ, d'une dette qu'on ne pourra jamais, jamais payer, est la preuve que nous devons absolument tout pardonner, que nous devons pardonner à notre tour. Est-ce que vous voulez faire miséricorde à ceux qui vous ont blessé? Y a-t-il des gens qui vous ont blessé? Est-ce que vous vous autorisez à dire « Ah non, lui, c'était un pasteur, c'était un ancien, il n'a pas le droit à l'erreur. » Ben, je suis désolé. On le verra la semaine prochaine, Dieu voulant. On va prendre les exemples d'hommes de Dieu qui se sont loupés et pourtant que Dieu a béni. Pour vous expliquer comment Dieu vraiment pardonne. Parce qu'il faut, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais vous verrez combien, franchement, c'est vraiment encourageant. Le fait d'avoir été pardonné doit nous donner la joie de pardonner à notre tour. Il a payé notre dette. Vous savez comment il a payé, on ne va pas y revenir. Une dette, alors comment ne pas faire pareil? Regardez un peu ce que dit Paul. Parce que Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour nous parler. Dans Éphésiens. Alors, cette étude est vraiment reliée au repos. Si vous ne pardonnez pas, vous dites, c'est même pas la peine que vous assistiez, enfin, c'est une façon de parler, à toutes ces réunions sur le repos, parce que vous n'entrerez jamais dans le repos. Regardez ce que dit Paul aux chrétiens d'Éphèse. Pourtant, c'était une bonne église, Éphèse. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Quand vous lisez l'en-tête, c'est une bonne église. Je pense que c'est la même église qu'il y a dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. Moi, je pense que c'est également... C'est une bonne église. Mais même dans une bonne église, on n'est pas parfait. Éphésiens chapitre 4, verset 31. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous savez comment Dieu vous a pardonné. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Regardez un peu plus loin, dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 13. On n'est pas parfait. Si vous exigez que les autres soient parfaits, vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit. Colossiens chapitre 3. Verset 13. « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. » Ça ne peut pas être plus clair. Dans ces églises qui avançaient, qui n'étaient pas parfaites, le Seigneur leur dit « Mais faites comme Jésus-Christ a fait. Pardonnez également. » Cet homme qui a été livré au bourreau, c'est quand même Jésus qui parle. Il faut quand même en tenir compte. Le refus de pardonner nous emprisonne. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont malheureux. Il y a des chrétiens qui sont toujours malheureux. Ils sont emprisonnés. Tant que vous ne pardonnez pas, spirituellement, vous êtes emprisonnés. Parce que quand vous ne pardonnez pas, vous péchez. Il y a une prophétie qui disait bien ce matin que... Parce qu'il n'y a pas que le péché qui nous éloigne de Dieu. Nos pensées peuvent nous éloigner de Dieu. Quand quelqu'un pense que Dieu ne l'aime pas, ça ne va pas l'approcher de Dieu. C'est un péché. Parce que Dieu nous a prouvé son amour. Et alors ça paraît presque humble. Vous voyez, le diable est capable d'essayer de nous faire croire que quelqu'un qui dirait « Oh, Dieu ne m'aime pas, qui je suis, moi, parce que je ne vaux rien. » Eh bien, vous voyez, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Parce que Dieu nous aime. Vous le croyez que Dieu nous aime ? Dieu vous aime. Et si vous ne le croyez pas, vous pouvez le dire avec les émotions que vous voudrez, c'est de l'orgueil parce que vous faites Dieu menteur. Je ne veux pas revenir sur la prophétie qui a été donnée. Mais c'est pour vous expliquer que l'on s'emprisonne lorsqu'on refuse de pardonner. Dieu a tout accompli pour que tous les hommes soient pardonnés. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas où on est de son amour. On peut dire « Oh, je sais que Dieu m'aime », on peut chanter des beaux cantiques comme c'était le cas ce matin. En vérité, on ne connaît pas l'amour de Dieu si on ne pardonne pas. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit « Recevez mes instructions et vous trouverez le repos ». Voilà, et des chrétiens ne seront jamais dans le repos. Pourtant, ils ont fait une belle expérience. Ils ont fait une belle expérience de repentance. Ils ont commencé avec une belle conversion. Mais en vérité, ils ne se sont pas attachés aux instructions de Dieu sur certains sujets, comme c'est le cas ce matin sur le pardon. Ils refusent de pardonner. Et vous le savez, parce qu'on a tous eu des problèmes. Tous, on a eu des offenses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer un moment en refusant de pardonner ? Vous avez vu ce qui se passe quand on refuse de pardonner ? Et je pense que là, vous pourriez tous témoigner et dire « Oui, mais quand on refuse de pardonner, eh bien, on a de la haine, on a de la rancune, etc. etc. et on est soulagé quand on pardonne. » Plusieurs pourraient le témoigner. Mais quand nous refusons de pardonner, on peut avoir le titre qu'on veut dans l'Église, on devient un esclave. Parce qu'on est malheureux, notre humeur s'assombrit quand on pense à la personne. Ça veut, non ? Vous avez envie de la croiser, la personne, hein ? Le seul fait qu'on nous parle de la personne, ça peut nous mettre en colère. Est-ce que j'exagère ? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Le seul fait qu'on nous parle de la personne, ça peut nous enrager. L'amertume, c'est comme un cancer dans le cœur. Il y a des maladies psychosomatiques. Il y a un docteur qui a écrit un livre aux États-Unis qui a un lit sur deux. Et il explique dans ce bouquin qu'une maladie sur deux, elle est psychosomatique. Qu'elle vient, et je crois que c'est partie vraie, que ça vient de toutes ces blessures que l'on peut nous infliger par des paroles C'est quelque chose de terrible. Quand on ne pardonne pas, je peux vous dire qu'on se fait beaucoup de mal. Dieu a institué le pardon. Voilà, il a institué. Vous vous rendez compte, s'il ne l'avait pas institué, dans quel pétrin on serait? Le pardon existe. Et si vous êtes emprisonné parce que vous ne pardonnez pas, ne dites pas, oh, je pardonnerai quand ça ira mieux, je pardonnerai quand je sentirai. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'émotion. Le pardon, c'est une décision. Je choisis de pardonner. Je veux sortir de cette prison dans laquelle je me suis enfermé. Surtout que celui qui ne pardonne pas, en vérité, je le sais parce que moi j'ai passé 6 mois dans le flou il y a 18 ans, celui qui ne pardonne pas, en vérité, il ne peut pas trop savoir où il en est de sa communion avec Dieu. Parce qu'on l'a lu, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Vous l'avez lu. Si on est vrai, on est obligé de dire, bon, je ne vais pas pardonner. Seigneur, je t'aime, mais je ne sais pas où j'en suis de ma communion et de ma relation avec toi. Puisque tu as dit que si je ne pardonnais pas, tu ne me pardonnerais pas non plus. Alors on se met en porte-à-faux dans notre relation avec le Seigneur. Et ça, c'est quand même quelque chose de sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un dit, oh, je ne pardonne pas, mais ça va bien avec Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non, ça ne peut pas être vrai. Recevez mes instructions. Vous savez, moi, ce repos, c'est quelque chose qui m'interpelle pour moi, parce que je veux vivre dans le repos en tant que chrétien, mais je sais que c'est de mon ressort, puisque Dieu me l'a mis à cœur, de le communiquer aussi aux autres. Est-ce que vous avez vraiment foi dans l'Évangile? Parce que vous avez compris le titre de ma prédication, la confiance en Dieu pour pardonner. Parce que Dieu a pardonné. Vous n'êtes pas content que Dieu ait pardonné vos péchés? Qu'est-ce qu'il dit Jean? Il est non seulement la victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quand vous avez offensé quelqu'un, vous dites, Seigneur, je te demande pardon, j'ai mal parlé à cette personne. Vous l'avez déjà fait ça? Bon, mais la personne qui a été offensée, ou qui vous a offensé, ben, elle a fait pareil aussi. Ben, il ne faut pas soupçonner le mal non plus. Est-ce que vous pensez que d'autres personnes qui ont mal agi, on peut dire, oh, je te demande pardon? Est-ce que Dieu les a pardonnés? Ben oui, ben heureusement. Vous aimez que Dieu vous pardonne? Eh bien, pensez quand même que Dieu aussi pardonne les autres. Pourquoi Dieu ne pardonnerait que vous? Ce serait quand même un peu vraiment gêné de penser que Dieu ne pardonne que nos offenses à nous. Mais Dieu pardonne les offenses des autres. Quelqu'un vous a offensé? Eh bien, il a dit, oh Seigneur, je demande pardon. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais une chose est certaine, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, quelles que soient les insultes, les souffrances, quelles que soient ce que Jésus a vécu, vous devez faire, nous devons faire pareil. Parce que Jésus a payé. Et il a payé vraiment très cher. Et je termine avec cet exemple. Étienne, il a été assassiné. Il a été lapidé, parce que c'est le terme biblique. Mais il a été assassiné, Étienne. Il a été assassiné par des pharisiens. Quelle est la dernière parole d'Étienne sur la terre? C'était un chrétien. Il était lapidé parce qu'il parlait de Jésus. Père, ne leur impute pas ce péché. Il a compris que sur la croix, Jésus a porté tous nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, il peut tout remettre entre les mains du Seigneur. Et c'est ce qu'on devrait comprendre. Parce qu'il n'est pas en train de faire un exploit, l'apôtre Étienne. Il vit dans le pardon. Il connaît le pardon. Il sait que quelqu'un a payé. Il sait que quelqu'un a payé à sa place. Donc il peut dire, voilà, cette personne... Enfin, quand même, c'était pas, on lui a pas écrasé un orteil. On l'a tué à coups de pierre. Est-ce que vous pouvez ce matin dire, eh bien, je pardonne moi aussi. Il est hors de question que je vive toute ma vie entière dans une prison. Je pardonne tout. Tout, je remets tout entre les mains de ce grand Dieu qui, lui, est le grand juge et qui, mieux que lui, peut s'occuper. Parce que si c'est lui qui s'en occupe, moi, je pense qu'il s'en occupera bien. Vous croyez qu'il s'en occupera bien de ça? C'est même pas la peine d'en parler. Pardonnez, comme Étienne a pardonné, pardonnez. Le péché, Jésus l'a pris sur la croix. Il a tout pris sur le bois de la croix. L'Église, c'est quoi l'Église? C'est une assemblée de gens parfaits ou c'est une assemblée de gens qui s'aiment? Malgré leur imperfection. Est-ce que vous aimez votre frère? Regardez celui qui est à côté de vous. Vite, vite. Est-ce que vous l'aimez? Vite, vite, vite. Regardez-le. Est-ce que vous l'aimez? Eh bien oui, vous devez pouvoir dire, oui, je t'aime. Monsieur Olé, oui, je vous aime. Je vous aime. La dame au fond, je l'aime. Vous devez. L'Église n'est pas une assemblée de gens parfaits. L'Église est une assemblée de gens qui s'aiment et qui s'aiment parce qu'ils se pardonnent. Voilà, voilà ce qu'est une Église. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons obéir. Alléluia. Franchement, c'est ça la parole. On n'est pas parfait, mais on peut obéir. Mes frères et sœurs, rappelez-vous de ça. Parce que c'est trop facile de dire oui, celui-ci, celui-là. Quand vous aurez compris ce que Jésus a payé, vous n'aurez aucun mal à pardonner. Que ce soit des amis, que ce soit des ennemis, que ce soit des chrétiens, que ce soit un pasteur. Ah non, un pasteur, je ne le supporterai pas. C'est pas possible que pasteur. Eh bien, pasteur, quand même, que vous le sachiez, il n'a pas atteint la perfection. C'est un homme comme vous et moi. D'accord ? Voilà. On va chanter ce cœur. Oh, si je me tais. Je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous apprenions à nous taire. Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Parce que vous savez, quand je lisais, c'était lundi, quand je lisais ce texte, Jésus nous a donné un exemple. Vous savez, ça m'a suffi à préparer cette prédication. Il nous a donné un exemple. En suivant ses traces, il n'a rien dit, mes frères et sœurs. On se lève pour chanter ce cantique. Si je me tais, c'est quel numéro ?